France Musique.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans nos arabesques qui se dérouleront aujourd'hui en compagnie de Céline Parfenoff, Souad Boukorsa, Martine Moni, Jean Frédérics, Philippe Alexandre, Théat Igou et Olivier Dehaye. Voici la première émission d'une série que nous allons consacrer à la Grande Guerre, à deux jours des commémorations du 11 novembre. Alors bien sûr, les poilus de 14-18 sont tous morts, mais la mémoire collective de la Première Guerre mondiale est encore très vive. D'ailleurs, ce sera un 11 novembre particulier cette année, celui du centenaire de l'installation du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, le 11 novembre 1920. Alors pour évoquer quelques-unes des musiques de la Grande Guerre, nous allons les explorer par pays, en commençant par le Royaume-Uni, suivi demain de l'Autriche et l'Allemagne, mercredi 11 novembre ce sera la France, jeudi sur les États-Unis et vendredi sur quelques pays d'Europe centrale qui ont connu une renaissance à l'issue de la guerre, comme la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Mais commençons tout de suite par le pays des Tommies, ces soldats britanniques dont le compositeur Gustav Holst semblait pressentir le sacrifice hors norme en écrivant juste avant l'entrée en guerre « Mars, the bringer of war », « Mars, celui qui apporte la guerre », premier mouvement de ces planètes.
Thank you.
C'est le 29 septembre 1918 que le chef d'orchestre Adrian Boult avait dirigé la création des planètes de Gustav Holst, composées entre 1914 et 1917, en particulier cette première planète, Mars, The Bringer of War, Mars, celui qui apporte la guerre, partition écrite juste avant l'entrée en guerre de 1914, et c'est Adrian Boult qui dirigeait ici l'orchestre philharmonique de Londres. Alors en août 1914, ce n'est peut-être pas l'image d'Épinal de la fleur au fusil, mais personne n'est capable d'imaginer que commence l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire humaine, avec près de 20 millions de morts, 10 millions de militaires, 9 millions de civils. L'armée britannique, elle, va perdre près de 750 000 hommes, avec des troupes coloniales, elles aussi, largement décimées, 64 000 morts, par exemple, dans l'Empire des Indes. Et si Gustav Holst traduit dans sa musique l'effroi de la guerre en général, sa violence, son fracas, plusieurs partitions témoignent encore d'une belle insouciance, celle de la belle époque qui se termine. En voici un exemple avec l'envol de l'alouette, The Lark Ascending, une partition pour violon et orchestre de Ray Vaughan Williams, composée en 1914, mais qui ne sera créée qu'en 1920 dans sa version piano-violon. L'année suivante aura lieu la création violon-orchestre que voici, The Lark Ascending de Vaughan Williams par Janine Jansen et l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres dirigé par Barry Wordsworth. C'est en 2003 que la violoniste Janine Jansen avait enregistré aux côtés de l'Orchestre Philharmonique Royal de Londres, dirigé par Barry Wordsworth, cet envol de l'alouette, The Lark Ascending de Ray Vaughan Williams, partition de 1914.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Alors dans leur barda, de nombreux soldats britanniques, de nombreux Tommies, ont emporté un recueil de poèmes de 1896 signé Alfred Edward Houseman et intitulé A Shropshire Lad, un gars du Shropshire. Le Shropshire, c'est une région du centre-ouest de l'Angleterre, frontalière du Pays de Galles. Et ce recueil de poésie, c'est une série d'évocations des vallons, des collines, des cours d'eau, et de la douceur de cette région, ce qui contrastait évidemment fortement avec l'horreur des tranchées. Et ces poèmes ont été mis en musique par de nombreux compositeurs anglais, notamment George Butterworth en 1911. Butterworth était d'ailleurs un proche, un ami de Vaughan Williams, avec qui il avait collecté de nombreux chants populaires anglais. George Butterworth s'engage comme volontaire 3 ans plus tard. Il intègre le 13e bataillon d'infanterie légère de Durham et il sera tué au combat par un sniper le 5 août 1916 à l'âge de 31 ans.
Thank you.
Sur la colline paresseuse de l'été, assoupie par le murmure des ruisseaux, j'entends au loin le roulement de tambours gronder sans fin dans mes rêves. Lointain et proche, faible et plus fort, sur les routes de la terre passent, chers aux amis et chers à canon, les soldats en marche, tous voués à la mort. À l'est et à l'ouest, oubliés dans l'herbe, blanchissent les os des compagnons massacrés. Gars charmants, morts et pourris, aucun de ceux qui s'en vont ne reviennent. Au loin s'égosillent les clairons, les fifres répondent, stridents, les colonnes écarlates suivent gaiement. Une femme m'a porté, je me lèverai. Voilà ce que dit ce poème de 1896, signé Houseman et mis en musique en 1911 par George Butterworth, musique qui semble annoncer le destin tragique de ce compositeur, chanté ici par le gallois Brinterfell, qui est donc un voisin de la région du Shropshire que j'évoquais tout à l'heure, avec au piano Malcolm Martineau. En voici un autre exemple de la musique de ce compositeur, George Butterworth, qui est mort à Pozières dans la Somme en 1916. 3 ans auparavant, il composait une œuvre qui s'inspire des travaux qu'il avait réalisés avec Vaughan Williams, travaux de collectage que j'évoquais tout à l'heure, en se basant sur une chanson anglaise intitulée The Banks of Green Willow. Voici cette partition avec l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Richard Hickox. Richard Hickox était à la tête de l'Orchestre Symphonique de Londres dans cette partition de 1913 signée George Butterworth, The Banks of Green Willow. Alors, les Anglais, les Britanniques commémorent le 11 novembre ce qu'on appelle le Poppy Day, le jour du coquelicot, avec 2 minutes de silence dans tous les pays du Commonwealth et des centaines de milliers de coquelicots en papier qui tombent du plafond du Royal Albert Hall, symbolisant chacun des morts de la Grande Guerre sur une foule silencieuse. C'est une des plus émouvantes cérémonies qui soit, ce coquelicot rouge qui vient d'un poème du Canadien John McRae, In Flanders Fields, que nous évoquerons jeudi prochain. Alors, il est d'usage également de se rassembler autour du cénotaphe à Londres, ce monument de pierre érigé en 1920, inauguré il y a un siècle d'ailleurs, le 11 novembre 1920. Mais il y eut aussi des monuments immatériaux en hommage aux morts de la Grande Guerre, The Great War, comme ce Requiem mondial, A World Requiem, du compositeur John Herbert Foulds, partition qui a été créée justement au Royal Albert Hall le 11 novembre 1923. Requiem pacifiste avec cette dédicace, je cite, « Un hommage à la mémoire des morts, un message de consolation pour les familles en deuil de tous les pays. » la mezzo-soprano Catherine Wynne Rogers, le baryton Gerald Finley, le chœur symphonique de la BBC, le chœur des garçons de Trinity et l'orchestre de symphonique de la BBC était dirigé par Léon Botstein dans cet extrait du Requiem mondial, A World Requiem, opus 60 de John Herbert Fields, composé en 1921.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
J'évoquais tout à l'heure le recueil de poèmes de Alfred Edward Hausmann, Shropshire Lad, qui a été lu de nombreuses fois par de nombreux Tommies dans le cours de la Première Guerre mondiale. Il faut également évoquer les poètes de la guerre, ces hommes qui se sont retrouvés au milieu des tranchées, crayon en main, écrivant de la poésie. Je pense en particulier à Wilfred Owen, qui est le plus marquant de tous, qui a été mis en musique par Benjamin Britten, comme nous l'entendrons dans quelques instants, dans le War Requiem. Mais voici un autre exemple avec Frédéric William Harvey et son poème In Flanders, dans les Flandres, qui se souvient de sa terre natale, des Cotswolds et de la rivière Severn, là-bas, très loin en Angleterre. I'm homesick, nous dit tout d'abord ce poème, j'ai le mal du pays. Et cette poésie de 1915 a été mise en musique par un compositeur qui lui aussi a connu les tranchées, c'est Ivor Gurney, blessé à l'épaule en avril 1917, mais qui est reparti au combat jusqu'à la fin de la guerre. Voici le baryton Simon Kinleyside dans ce In Flanders de Ivor Gurney.
I'm homesick for my hills again, my hills again. To see above the Severn plain, unscabbarded against the sky, the blue high blade of Cotswold lie. The giant cloud go royally by jagged Morven with a train of shadows, where the land is low like a huge imprisoning.
My hills again, mes collines encore, nous dit ce poème de Frédéric William Harvey, mis en musique par Ivor Gurney dans le courant de la Première Guerre mondiale, In Flanders, chanté par Simon Kinleyside avec le pianiste Malcolm Martineau. Alors il y a des poèmes, il y a aussi des témoignages sur la Grande Guerre, comme celui du compositeur Arthur Bliss, dont nous allons écouter une partition intitulée Morning Heroes, les héros du matin. C'est une partition de 1930 qui se souvient de la Grande Guerre à travers des textes classiques comme ceux du chinois Li Taipo, ceux de l'Américain Walt Whitman, qui a été un témoin de la guerre de sécession. Étant jeune homme, écrit Arthur Bliss, on ne peut faire face longtemps à l'immédiateté de la mort sans devenir pénétré d'enthousiasme pour les valeurs de la vie. Les moindres indices d'une vitalité positive existant à l'encontre d'une force destructrice se chargeaient d'une importance immense. Un papillon dans une tranchée, le vol en piqué ou le pépiment d'un oiseau, un vers de poésie, la forme d'Orion, l'étoile, était pour ainsi dire perçue et en fait ressentie avec beaucoup plus de clarté et d'intensité qu'il n'aurait jamais été possible de l'imaginer auparavant. On s'y cramponnait désespérément, en quelque sorte, à cause de leur lien intime avec le pouvoir salvateur de la beauté. On manifestait une conscience des choses bien plus aiguë qu'à tout autre moment de la vie. On voyait des objets pour la première fois, simplement parce qu'il se pouvait aussi, je suppose, que ce soit la dernière. Un extrait de Morning Heroes de Arthur Bliss. Voilà une partition composée en 1930 sur des poèmes notamment de Lee Tai-po ou de Walt Whitman, comme on l'entendait à l'instant avec The Bivouac's Flame. C'est le chœur et l'orchestre symphonique de la BBC dirigé par Charles Groves que nous entendions dans cette partition. Alors voici comme prévu le célèbre War Requiem de Britten, en tout cas un extrait de cette partition qui a été conçue bien après, dans le début des années 60, pour la consécration de la nouvelle cathédrale de Coventry, l'ancienne cathédrale ayant été bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais Britten, loin de faire un simple requiem pour les morts, fait également un monument au pacifisme, lui qui avait été objecteur de conscience. Et il fait appel à un soldat poète très connu en Angleterre, Wilfred Owen, qui était tué le 4 novembre 1918, une semaine avant l'armistice à Horse, dans le Nord, et qui nous a laissé des textes tout à fait poignants, déjà d'un grand intérêt poétique. Et puis également, ce sont des textes qui témoignent sans phare de la cruauté, de la brutalité de cette Première Guerre mondiale. Donc Britten, en écrivant ce requiem, utilise le texte latin traditionnel, mais il propose également, au milieu de ces recordare, Jesu pie et autres dies irae, eh bien des poèmes de Wilfred Owen, comme celui-ci, qui sera chanté par Dietrich Fischer-Dieskau. « Lentement, lève-toi, ô long bras noir, grand canon dressé vers le ciel, prêt à maudire. Atteins cette arrogance qui exige de te nuire, et abat-la avant que ses péchés empirent, mais quand tu auras jeté tout ton maléfice, que Dieu te maudisse et t'arrache de nos âmes. » Un extrait du War Requiem, Requiem de guerre, de Benjamin Britten, avec ce poème de Wilfred Owen, chanté par Dietrich Fischer-Dieskau. Il y avait également dans cet enregistrement le Back Choir, l'orchestre symphonique de Londres, était dirigé par le compositeur.
Arabesque, François-Xavier Chemchak, France Musique.
Vous avez commencé cette émission avec la célèbre ouverture des planètes de Gustav Holst, partition composée juste avant l'entrée en guerre, Mars, The Bringer of War, avec l'Orchestre Philharmonique de Londres dirigé par Adrian Boult. Eh bien, voici de nouveau cette formation avec ce chef qui a dirigé la création de cette partition en 1918. En 1914, juste après Mars, eh bien, Holst a écrit le pendant, à savoir Vénus, celle qui apporte la paix, Venus, The Bringer of Peace.
Thank you.
Adrian Boult, à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Londres, c'était Vénus, celle qui apporte la paix, Venus, the bringer of peace, deuxième mouvement des planètes de Gustav Holst, composé en 1914 et créé après la guerre en 1918, donc sous la direction d'Adrian Boult. Nous entendions au début de cette émission le violon de Janine Jansen dans The Lark Ascending, l'envol de l'alouette de Ray Vaughan Williams, une sorte de symbole musical des derniers moments d'insouciance de la Belle Époque. Et bien voici en écho une partition du père fondateur de la musique anglaise moderne, Edward Elgar, qui écrit après un silence de 4 ans ses premières notes pour un concerto pour violoncelle en mi mineur resté au répertoire, ici interprété par Sekou Kané-Mason avec l'Orchestre Symphonique de Londres dirigé par Simon Rattle.
Thank you.
C'est l'année dernière, en juin 2019, au studio 1 d'Abbey Road, que le violoncelliste chez Cook, Anne Mason, avait enregistré le concerto pour violoncelle, c'est le cas de le dire, d'Edward Elgar avec l'Orchestre Symphonique de Londres, dirigé par Simon Rattle.
À réécouter sur francemusique.fr.